France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Après cette interruption pour les vacances de la Toussaint, bon, il y a eu cette reprise, ma reprise au théâtre où je joue là Hugo et je ne pouvais pas venir. Je vous propose aujourd'hui de lire un extrait plus long du Voyage au bout de la nuit. Il est impossible de le dire en intégralité, ça prendrait, je ne sais pas, une cinquantaine d'heures, si ce n'est pas une centaine d'heures. Parce que le Voyage au bout de la nuit, ça commence place Clichy, ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, c'est Arthur Gannat, etc. Après c'est le départ dans la guerre de 14-18, après c'est la guerre de 14-18, il y a l'Afrique, après l'Afrique, il y a l'arrivée à New York, et après l'arrivée à New York, il y a la banlieue. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler, c'est cette langue incroyable, de ce réalisme qui atteint quasiment la poésie. Oui, bizarrement, Céline est un poète. On ne met pas de côté le drame de Céline, c'est-à-dire le personnage monstrueux antisémite, on ne l'oublie pas. Mais on se concentre sur son geste littéraire, sur ce qu'il a écrit. Je vous ai déjà fait du Céline, mais je vais recommencer sur... Pour reprendre la banlieue, je vais recommencer par la fin de l'Amérique avec ce truc poignant, ce chef-d'œuvre d'émotion qu'est la fin de l'histoire avec Molly. Molly, qui était vécue par Céline comme sa formule était, c'était Molière en femme. Molly, c'est la lumière dans le Voyage au bout de la nuit. C'est cette femme qui s'appelait Elizabeth Greig. D'ailleurs, le livre est dédié à elle. Cette femme qui travaillait dans une maison de prostitution et qui tombe amoureuse totalement de Céline, qui était très beau hein, quand il était jeune. Et puis lui tombe amoureux d'elle et puis c'est leur histoire ratée et c'est le départ. Parce que Céline ne veut pas rencontrer le bonheur, ne veut pas vivre avec cette femme exceptionnelle. Et puis après, donc, je vais vous faire la fin de l'Amérique, un peu de banlieue, et au milieu, je vais essayer d'intégrer un poète étonnant qui s'appelle Rictus, Jehan Rictus, qui est un poète de Montmartre. Et je vais vous lire un passage des Soliloques du pauvre. Et là, c'est du pur argot, et j'espère que je vais vous faire sentir la langue de Céline, qui n'a rien d'argotique. Et pourtant, l'ambition de Céline est de restituer l'émotion du langage parlé dans la langue écrite. Ça a l'air de rien, mais c'est son projet. Et personne n'avait pensé à ça. Personne n'avait pensé à restituer l'émotion de la langue parlée dans l'écrit. Alors, on commence la fin de l'Amérique. Ils sont en fin de piste, là, la relation, et elle voit bien qu'il est incapable de s'engager. Et je vous prends au moment où il dit... À Molly, on s'est donné rendez-vous pour une autre nuit. Je suis retourné trouver Molly et je lui ai tout raconté. À me cacher la peine que je lui faisais, elle se donnait bien du mal, mais c'était pas difficile à voir quand même qu'elle en avait. Je l'embrassais plus souvent à présent, mais c'était du profond chagrin le sien. Plus vrai que chez nous autres, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous autres, d'en dire pour plus qu'il y en a. Chez les Américaines, c'est le contraire. On n'ose pas comprendre, l'admettre. C'est un peu humiliant, mais tout de même, c'est bien du chagrin, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la jalousie non plus, ni des scènes, c'est rien que de la vraie peine du cœur, et qu'il faut bien se dire que tout ça nous manque en dedans, et que pour le plaisir d'avoir du chagrin, on est sec. On a honte de ne pas être riche en cœur et en tout, et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond. Ce qui est étonnant, c'est la première fois qu'il photographie une de ses composantes, d'avoir photographié l'humanité plus bas qu'elle n'est. Alors évidemment, tous les gens disent que c'était lui, la haine de soi, son antisémitisme vient de là, la haine de lui, la haine des hommes, la capacité de capter ce qu'il y a de misérable chez l'être humain. Mais il le dit lui-même, c'est là où la lucidité est hallucinante. On a honte de ne pas être riche en cœur et en tout, et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond. De temps en temps, elle se laissait, Molly, entraîner tout de même à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables. Vous êtes bien gentil, Ferdinand, me disait-elle, et je sais que vous faites des efforts pour ne pas devenir aussi méchant que les autres. Seulement, je ne sais pas si vous savez bien ce que vous désirez, au fond. Réfléchissez-y bien. Il faudra que vous trouviez à manger de retour là-bas, Ferdinand. Et ailleurs, vous ne pourrez plus vous promener comme ici, à rêvasser pendant des nuits et des nuits, comme vous aimez tant à le faire pendant que je travaille. Vous y avez pensé, Ferdinand ? Dans un sens, elle avait mille fois raison. Mais chacun sa nature. J'avais peur de la blesser, surtout qu'elle se blessait bien facilement. Je vous assure que je vous aime bien, Molly, et je vous aimerai toujours, comme je peux, à ma façon. Ma façon, c'était pas beaucoup. Elle était bien en chair pourtant, Molly, bien tentante. Mais j'avais ce sale penchant aussi pour les fantômes. Peut-être pas tout à fait par ma faute. La vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes. Vous êtes bien affectueux, Ferdinand, me rassurait-elle. Ne pleurez pas à mon sujet. Vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage, voilà tout. Enfin, ça doit être votre chemin, vous. Par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Vous allez partir bientôt, alors ? Oui, je vais finir mes études en France, et puis je reviendrai, lui assurai-je, avec culot. Non, Ferdinand, vous ne reviendrez plus. Et puis je ne serai plus ici non plus. Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Nous allâmes un soir vers la gare un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison. Dans la journée, j'avais été faire mes adieux à Robinson. Il n'était pas fier non plus que je le quitte. J'en finissais pas de quitter tout le monde. Sur le quai de la gare, comme nous attendions le train avec Molly, passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître. Mais ils chuchotaient des choses. Oui, comme c'est une fille qui travaille dans un bordel, évidemment. Vous voilà déjà loin, Ferdinand. Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez bien envie de faire. Voilà ce qui est important. C'est cela seulement qui compte. Le train est entré en gare. Et j'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassée, Molly, avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie, pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie, rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ, et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit, et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais, où on pouvait la connaître, la suivre, Molly, jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent, c'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne. Admirable Molly. Je veux, si elle peut encore me lire d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours, à ma manière, qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, eh ben tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour tous les deux et pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêves, Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. Et là, il la quitte. Il exprime totalement son incapacité à vivre une histoire heureuse parce qu'il voit bien que s'il rentre dans une histoire amoureuse heureuse, il ne pourra plus écrire. C'est la tragédie. S'il est heureux, il ira bien. Et c'est ça, c'est une dialectique très classique. Et il va quitter l'Amérique et il va revenir en banlieue. Nous sommes en 1929-1930 et c'est le début de la banlieue. C'est pas le tout d'être entré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé à traîner par ici. Poisseux, précaire, il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois, tout autour de la place Clichy, d'où j'étais parti, et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre, du côté des Batignolles. Paracomptable, sous la pluie ou dans la chaleur des autos, je suis venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford, je les regardais passer et passer encore pour me distraire, les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir, toujours plus ou moins seul. Pendant mes heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux, et puis avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études, une fois reprises, les examens, je les ai franchis à Uadia, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, hein, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée, des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes 5 ou 6 années de tribulations académiques, je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre. À la Garenne Rancy, là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. J'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus, rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Ça me rappelle quand je le jouais au théâtre qu'il y avait un sens énorme du musical chez Céline. Tu sais, ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis, c'est du Beckett, tu vois. Il a posé sa plaque et il attend. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Vous avez vu la répétition du mot « ma plaque » hein ? Ah, les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Oh, c'est génial, ça. Vous comprenez ? Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Ça devient énorme, la plaque. C'est le rôle principal. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu, il a déposé son diplôme, s'en est un. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des plaines bordées d'ahuri brinque-ballant dès le petit jour, par le boulevard Minotaure qui descendait vers le boulot. Les jeunes, ils étaient presque comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied. C'est mignon, rigolant, faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont. Plates façades, leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il n'oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Rancy, c'est certainement une banlieue après la porte Clichy. Ça doit être la Garenne-Colombes. Je ne sais pas exactement où c'est, et ça m'est égal en plus. Parce que ce qui est merveilleux, ce n'est pas la vérité scientifique, c'est la beauté de la lumière du ciel à Rancy. C'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisse tenu par des gadous noirs au sol. Les cheminées des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Je crois qu'on n'avait jamais écrit comme ça avant lui. Hein ? Les cheminées des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. T'as vu le là-dedans, c'est nous. 4 mots. Là-dedans, c'est nous. Là-dedans, c'est nous. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine. Ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité. comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais, c'est nous pas. Au matin, donc, le tramway emporte sa foule, se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il aurait arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes, grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris. Celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Hein. Il vous l'a fait transpirer, pourtant, sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans et davantage, c'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway, déjà un bon coup pour se faire la bouche. Les femmes sont plus râleuses encore que des moutards. Pour un billet en resquis, elles feraient stopper toute la ligne. C'est vrai qu'il y en a qui sont déjà saoules parmi les passagères. Surtout celles qui descendent au marché vers Saint-Ouen. Les demi-bourgeoises. Combien les carottes qu'elles demandent bien avant d'y arriver pour faire voir qu'elles ont de quoi. Comprimées comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer. Ça, je crois que personne n'a parlé aussi nettement du drame des transports en commun. Hein? Comprimées comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer. On traverse tout Rancy et on odore ferme, hein, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace, on gueule un dernier coup et puis on se perd de vue. Le métro avale tous et tout, les complets détrempés, les robes découragées, bas de soie, les métrites et les pieds sales, comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortement en cours, glorieux de la guerre, tout ça dégouline par l'escalier, au coltard, et féniqué, et jusqu'au bout noir avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que de pipin, la lente angoisse du renvoi sans musique, toujours si près des retardataires, avec un certificat sec quand le patron voudra réduire ses frais généraux. Souvenir de crise à fleur de peau de la dernière fois sans place, de tous les intransigeants qu'il a fallu lire. 5 sous, 5 sous, 5 sous, des attentes à chercher du boulot. Ces mémoires vous étranglent un homme tout enroulé qui puisse être dans son par-dessus toute saison. La ville cache tant qu'elle peut ses foules de pieds sales dans ses longs égouts électriques. Ils ne reviendront à la surface que le dimanche. Alors quand ils seront dehors, faudra pas se montrer. Un seul dimanche, aller voir se distraire, ça suffirait pour vous enlever à toujours le goût de la rigolade. Moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone. Et là, c'est du cinéma. Moi, je m'étais trouvé pour la pratique... un petit appartement au bord de la zone d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus. C'est sublime, l'ouvrier toujours. Il arrive à faire de toujours un verbe. Moi, je m'étais trouvé, moi, on est en 1929, moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus à regarder rien. Avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui sait plus quoi faire et quoi penser, et qui n'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Molly avait eu bien raison. Je commençais à la comprendre. Les études, ça vous change. Ça fait l'orgueil d'un homme. Faut bien passer par là pour entrer dans le fond de la vie. Avant, on tourne autour seulement. On se prend pour un affranchi, mais on bute dans des riens. On rêve de trop, on glisse sur tous les mots. C'est pas ça. Ça, ce n'est rien que des intentions, des apparences. Faut autre chose résolu. Avec la médecine, moi, pas très doué tout de même, je m'étais bien rapproché des hommes, des bêtes, de tout. Maintenant, il n'y avait plus qu'à y aller carrément dans le tas. La mort court après vous, faut se dépêcher. Puis, faut manger aussi pendant qu'on cherche. Et puis, passer en dessous la guerre, par-dessus le marché. Ça fait bien des choses à accomplir. C'est pas commode. En attendant, quant au malade, il en venait pas baiser. Faut le temps de démarrer, qu'on me disait pour me rassurer. Le malade, pour l'instant, c'était surtout moi. Y a guère plus lamentable que la garenne rancy, trouvais-je, quand on n'a pas de clients. On peut le dire, faudrait pas penser dans ces endroits-là. Et moi qui étais venu justement pour penser tranquille, et de l'autre bout de la terre encore, je tombais bien. Petit orgueilleux, c'est venu sur moi, noir et lourd, y avait pas de quoi rire, et puis ça m'a plus lâché. Un cerveau s'étirant comme y a pas.
Thank you. Fabrice Lucchini lit Céline, Voyage au bout de la nuit.
Et maintenant, je sais pas, ça me rappelle tellement de souvenirs de redire ces textes que j'ai édits dans les années 1985. Tout a commencé par une demande de Jean-Louis Barrault. Je sortais d'un film d'Éric Rohmer qui s'appelait « Les nuits de la pleine lune ». Et comme les films de Rohmer t'entraînaient jamais à avoir des propositions parce que son univers était tellement singulier que j'étais au chaume du, comme souvent pendant ces époques-là. Et puis, j'avais trouvé le travail au théâtre de manière fondamentale, une sorte de vocation grâce à mon prof, et j'avais travaillé des pages entières de Céline, mais je ne pensais jamais qu'un jour je les dirais. Et Jean-Louis Barrault me dit « Tu devrais venir », on était en 1985, « Tu devrais venir à 18h30 », ça a été mon horaire fétiche, puisque je ne joue qu'à 18h30 globalement, « et tu vas faire 8-9 fois Céline ». Je dis « Mais Céline est une musique telle que je vais que rajouter des choses personnelles qui vont détruire l'harmonie de la musique ». Il m'a dit « Mais c'est pas, t'inquiète pas, tu viens, tu lis à plat ». Alors je me suis lancé dessus. Je l'ai joué pendant 20 ans. Alors on va parler d'un autre poète qui n'a rien à voir avec Céline. C'est un poète de l'argot, un poète de Montmartre, un gars qui s'appelait Rictus. Et il invente Rictus, il fait jaillir un langage. D'ailleurs, Stéphane Mallarmé lui a adressé une lettre. « Merci mon cher poète, tu te rends compte quand tu reçois une lettre de Mallarmé, du beau livre. Oh, quel étrange, poignant et sourd instrument. Vous vous êtes fait, je trouve génial, votre déformation de la langue. » Tout ce que je ne connaissais pas du soliloque du pauvre m'émeut d'art, autant que j'en admire la source humaine. Cela part d'une telle profondeur pour jaillir si haut. Et là, il va parler du Christ, mais avec le langage de l'argot. Et je veux montrer que la langue de Céline, elle n'est pas argotique. Parce que là, c'est un merveilleux poète qui va parler du Christ. Des fois, je me dis, lorsque je charrie à Douette, à gauche, et sans savoir, ma pauvre bidoche en mal d'espoir. Et quand je vois que j'ai pas le droit de m'asseoir ou de roupiller sur le trottoir ou le macadam de ma patrie, je me dis tout de même, c'est qui reviendrait ? Qui ça ? Ben quoi ? Vous savez bien, le trimardeur galiléen ? Le rouquin, au cœur plus grand que la vie ? De quoi ? Ben celui qui tout l'ardent se les roula pas dans de beaux langes à cause que son double daron était si tellement purotin qu'il dut le faire pendre sur du crottin. Comme ça, à la dure, à la fraîche, à preuve que la paille de sa crèche navigua dans la bouse de vache, si qui reviendrait, l'agneau sans tache, si qui reviendrait, le bâtard de l'ange, celui qui plus tard se fit accrocher à 33 berges en pleine jeunesse, même qu'il n'est pas encore dépendu, histoire de racheter ses frangins qui eussent l'ont vendu et revendu, car tout le monde en a tiré de l'or, depuis Judas jusqu'à Grand Machin, le gars dont le jactait s'en allait, comme qui eût dit un ruisseau de lait, mais qu'a tourné, qui s'aigrit, comme le lait tourne dans une crèmerie, quand la crémière a ses anglais. La crémière, c'est l'humanité, qui ne peut approcher de la bonté sans que celle-ci, comme le lait, ne s'aigrisse, et ne tourne aussitôt en malice. Si qui reviendrait, l'homme bleu qui marchait sur la mer, et qui était la foi en balade, lui qui, pour tous les malheureux, avait plutôt sous le téton gauche, en façon de cœur, un douloureux. Preuve qui guérissait les malades, rien qu'à le voir dans le blanc des yeux, ce qui rendait les médecins furieux. Le gars qu'en a fait du joli, et qui pour les mufs de 100 ans n'était pas toujours des plus polis, car il disait à ses apôtres, amez-vous bien les uns les autres, faut tous être copains sur la terre, faudrait voir à ce qu'il n'y ait plus de guerre, et voir à ne plus se buter dans le nez, autrement vous serez tous damnés, et puis encore malheur aux riches, heureux les poilus sans pognon, un chameau s'enfilerait bien par le petit trou de aiguille qu'un michène entrerait aux yeux, le mec qui était gobé par les femmes au point que c'en était scandaleux, l'homme aux beaux yeux, là c'est sublime. L'homme aux beaux yeux, l'homme aux beaux rêves, le charpentier toujours en grève, l'artiste, le meneur, l'anarcho, l'entrelardé de cambrioleur, ça serait-il paradoxal, lui qui a porté sur sa dorsale une autre croix que la Légion d'honneur, si qui reviendrait, tout d'un coup, en sans façon, le modèle des mini-séconomes, lui qui gavait plus de 5000 hommes avec 3 pains et 7 poissons, si qui reviendrait, juste à de notre temps, Quoi donc qui se mettrait dans le battant? À lui dont à présent on se fout, surtout les ceux qui disent qu'il aime. Peut-être bien qu'il n'y aurait que du dégoût pour ce qu'a produit son sacrifice. Et que cette fois-ci, en bonne justice, leur ait envie de nous foutre des coups. Ce qui reviendrait quelques jours comme ça, sans crier gare, en douce, en peinard, en mariole, de Montsouris à Batignolles, nom d'un nom, quel coup de Trafalgar, devant cette figure d'honnête homme, quoi y diraient nos négociants, lui qui bûchait sur les marchands? Et c'est le pape qui serait affolé si des fois il passerait par Rome. Le pape qui est plus riche que Crésus. J'en ai le frisson rien que d'y penser. Et pourtant, qui reviendrait Jésus, lui et sa gueule de désolé. Ah oui, tu as l'homme bleu qui mâchait sur la mer, qui était la fond balade, lui qui pour tous les malheureux avait plutôt son téton gauche en façon de cœur indouloureux. C'est sublime, hein?
Sur France Inter, Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, man, that. You know she's waiting, just anticipating, but it's all so easy.
Maintenant, on reprend Céline pour montrer que c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est incroyable, cette langue. Ça m'a fait évidemment penser au langage très imagé des voyous des abbesses. Vous savez, tout est parti d'une scène originale pour moi et originelle. Oh, allez pas, grandiose! J'ai découvert la langue de la rue, c'était des gens très très pauvres qui sortaient de prison, on les appelait les voyous des abbesses, de la Sepla des Sebéa. Et moi j'avais 15 ans, j'étais petit apprenti coiffeur, je prenais mon métro aux abbesses ou à la Marcolin-Court ou à Jules Geoffrin, à la mairie. Et puis je m'arrêtais aux abbesses et je voyais tous ces gens avec une langue à eux, personne ne comprenait rien. Ça c'est les années 60-65, ils parlaient en verlan totalement intégré et c'était incroyable. Et un jour, il y a un gars qui demande une espèce de bombe atomique physique, un puissant comme ça. Tu m'accompagnes, il faut que j'aille à Cheblanc, à Blanche, pour acheter un rasoir. Et le grand lui dit, non, j'y vais pas. Et j'ai entendu une phrase toute simple. Il a dit, l'autre, tu te dérobes. Et je me suis dit, c'est ça, dramatiser le rien du quotidien. Il lui demande de l'accompagner pour aller acheter un rasoir, l'autre ne veut pas, et l'autre le regarde et lui dit « Tu te dérobes ?» C'est Audiard, cette langue vivante, c'est l'argot. Ça n'a rien à voir avec Céline, mais disons que Céline a fait un mix de tout ça. On revient à la banlieue, en bas de chez moi demeurait Bézin. Le petit brocanteur qui me disait toujours quand je m'arrêtais devant chez lui « Faut choisir, docteur, jouer aux courses ou bien prendre l'apéritif. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas tout faire. Moi, c'est l'apéro que je préfère. J'aime pas le jeu. » Pour lui, celui d'apéritif qu'il préférait, c'était la gentiane cassis. Pas méchant d'habitude et puis du piccolo, pas très gentil. Quand il allait au ravitaillement, à la foire aux puces, il restait des 3 jours dehors. en expédition, comme il appelait ça. Vous voyez, c'est exactement le même truc que tu te dérobes. Quand le mec s'en va chercher des trucs à la foire aux puces, il reste 3 jours dehors et il appelle ça en expédition. C'est ça, dramatiser le quotidien avec de la pure poésie. Il part en expédition, il va pas au pôle Nord, non, il va aux puces. Mais c'est une expédition. C'est la même chose que tu m'accompagnes pour le rasoir, non, tu te dérobes. Alors quand il allait au ravitaillement à la foire aux puces, il restait des 3 jours dehors, en expédition, comme il appelait ça. On le ramenait. Alors il prophétisait. L'avenir, je vois comment qu'il sera. Ça sera comme une partouze qui n'en finira plus et avec du cinéma entre. Il n'y a qu'à voir comment que c'est déjà. Il voyait même plus loin encore dans ces cas-là. Je vois aussi qu'ils boiront plus. Je suis le dernier, moi, qui bois dans l'avenir. Faut que je me dépêche, je connais mon vice. Tout le monde toussait dans ma rue. Ça occupe. Pour voir le soleil, il faut monter au moins jusqu'au Sacré-Cœur à cause des fumées. De là, alors, c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous et les maisons où on demeurait. Mais quand on cherche en détail, on les retrouve pas, même la sienne, tellement c'est laid et pareillement laid tout ce qu'on voit. Plus au fond encore, c'est toujours la Seine à circuler comme un grand glaire en zigzag d'un pont à l'autre. Quand on habite à Rancy, on ne se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose, voilà tout. À force de faire des économies sur tout, à cause de tout, toutes les envies vous sont passées. Pendant des mois, j'ai emprunté de l'argent par-ci, par-là. Les gens étaient si pauvres et si méfiants dans mon quartier qu'il fallait qu'ils fassent nuit pour qu'ils se décident à me faire venir. Moi, le médecin pas cher pourtant, et ça, je trouve ça d'une grande beauté. J'en ai parcouru ainsi des nuits et des nuits, à chercher des 10 francs et des 15 à travers des courets de 100 lunes. Au matin, la rue devenait comme un grand tambour de tapis battu. Alors là, ils sortent d'une épouvantable scène d'avortement d'une pauvre femme avec sa maman qui hurle. Et Céline dit « Ce matin-là, j'ai rencontré Bébert qui gardait la loge de sa tante partie de Eurocommission. » Et là, il y a une description de Bébert qui est comme une lumière dans ce livre. Sur sa face livide à Bébert, dansotait cet infini petit sourire d'affection pure que j'ai jamais pu oublier. Une gaieté pour l'univers. Alors là, il rencontre la tante qui lui explique ce qu'il faut qu'il fasse. Elle est remplie de clientèle alors qu'elle est bourrée, puisqu'il dit lui-même, la tante à bébé rentrait des commissions, elle avait déjà pris le petit verre. Faut bien dire également aussi qu'elle reniflait un peu l'éther. Habitude contractée alors qu'elle avait servi chez un médecin et qu'elle avait eu si mal aux dents de sagesse. Il lui en restait plus que 2 des dents par devant, mais elle manquait jamais de les brosser. Quand on est comme moi, qu'on a servi chez un médecin, on connaît l'hygiène. Et la phrase est étonnante, elle donnait des consultations médicales dans le voisinage, et même assez loin, jusque sur Beson. Il m'aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose, la tante à Bébert. Mais non, elle ne pensait à rien. Elle parlait énormément, sans jamais penser. Donc, la grande rencontre avec la tante à Bébert, qui lui annonce que son fils Bébert se touche. Céline offre la possibilité de lui faire peur en disant qu'il allait devenir fou. Et puis après, elle finit par lui demander des conseils pour un tas de choses. Et puis Céline en a marre, il part et on retombe sur « En m'en allant, je pense tout de même à Bébert ». Faut le sortir, que je lui dis. Sors pas assez, cet enfant-là. Où voulez-vous qu'on aille, tous les deux? Je peux pas aller bien loin avec ma loge. Aller au moins jusqu'au parc avec lui le dimanche. Mais il y a encore plus de monde et de poussière qu'ici, au parc. On est les uns sur les autres. Sa remarque est pertinente. Je cherche un autre endroit à lui conseiller. Timidement, je propose le cimetière. Le cimetière de la Garenne-Rancy, c'est le seul espace un peu boisé, d'un peu détendu dans la région. Tiens, c'est vrai, j'y pensais pas, on pourrait bien y aller. Bébert revenait justement. Hey, « Hé, toi, Bébert! Ça te dirait d'aller au cimetière ?» Bébert, justement, n'a pas d'opinion, mais l'idée plaît à la tante et ça suffit. Elle a un faible pour les cimetières, la tante, comme tous les Parisiens. On dirait à ce propos qu'elle va se mettre enfin à penser. Elle examine le pour et le contre. Les fortifications, c'est trop voyou. Au parc, il y a décidément trop de poussière, tandis que le cimetière, c'est vrai, c'est pas mal. Et puis les gens qui viennent là le dimanche, c'est plutôt des gens convenables et qui se tiennent, et en plus, qui est bien commode. C'est qu'au retour, on peut faire ses commissions en rentrant par le boulevard de la Liberté, où il y a encore des boutiques d'ouvertes le dimanche. Alors à la conclue, bébert, va-t'en reconduire le docteur chez Madame Enrouille. Tu sais où qu'elle demeure, hein, Madame Enrouille. Bébert sait où tout est. Pourvu que ça soit l'occasion d'une vadrouille.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Je remercie Xavier Pestugia à la réalisation, Sébastien Royer à la technique, Thierry Dupin pour la musique, Emmanuel Garassino pour son aide dans la construction de ces émissions. Et je vous dis à dimanche prochain et bonne soirée.